Il m'a été très difficile de préparer cette intervention parce que le champ est très large, des applications, des concepts théoriques, méthodologiques, de la télédétection et des systèmes d'information géographique. Donc j'ai fait un choix, je vais vous présenter un panorama. Dans sa deuxième partie, ce panorama est essentiellement appuyé sur l'expérience au CAMS, qui, je le rappelle, un des anciens centres numériques et un des premiers centres parisiens de télédétection pour SHS, sous la direction de Jean-Paul Gilgue. Je rappelle aussi que derrière les meilleurs logiciels de systèmes d'information géographique, vous connaissez ArcGIS, et je remercie l'école d'avoir participé à la licence CITE, qui donne à tous les chercheurs le droit à une licence ArcGIS, complète pour traiter les conceptualiser et traiter les données géographiques. Et c'est Pascal Cristofoli qui s'est chargé de gérer cette partie de licence site. Je rappelle d'abord que la télédétection consiste à une observation à distance. Elle est basée à une observation à distance des paysages terrestres. Et donc l'information satellitaire est une mesure numérique basée sur l'enregistrement ou la captation du rayonnement visible et invisible, qu'il soit réfléchi, c'est-à-dire le rayonnement naturel, solaire, quand il arrive, il est renvoyé, ou émis, et quand je parle d'émission ici, je parle de l'enregistrement de température et des sources de chaleur par des capteurs satellitaires, ou encore le rayonnement rétro du fusée qui concerne les radars. Et donc, c'est un rayonnement actif. Donc, c'est le satellite qui envoie une onde et qui reçoit l'onde rétro du fusée. Et tout cela, c'est par unité de surface. Et l'unité de surface de base, c'est le pixel. Et donc, la quantité d'énergie enregistrée par les satellites, par les capteurs satellitaires, est en rapport avec les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et environnementales des composantes du paysage observé. Autrement dit, le rayonnement porte en lui l'empreinte digitale des objets de surface, donc des pixels observés. Comme vous le voyez sur ce schéma-là, le système. Et donc, à partir de ces données qu'on peut interpréter de point de vue physico-chimique, de point de vue biologique, et du point de vue environnemental, nous permet d'identifier tous les objets d'occupation des sols, que ce soit la neige, la végétation, le bâti, les sols, et ainsi de suite. Et par conséquent, les fondements scientifiques de la télédétection remontent aux premières théories de la lumière, de Démocrite à Aristote, Ptolémée, Ibn al-Haytham, qui a fait le traité d'optique, puisque la télédétection se base beaucoup aussi sur des recherches d'optique, et que la télédétection n'est pas une science nouvelle. C'est de nouvelles approches, de nouvelles méthodes, une nouvelle technologie, mais elle se base sur des théories très, très anciennes. Et donc, elle devint possible depuis le premier vol en ballon. On pouvait observer déjà notre espace à distance. Et donc, il a été mis au point par les frères Montgolfier. Et le rayonnement infrarouge, qui est utilisé aujourd'hui par les satellites, a été déjà découvert et formulé par Herschel en 1800. La première photographie aérienne date de 1883. Et donc, c'est là où vous voyez ici le Félix Nadar qui prenait la photo. Le principe aussi du radar, les satellites radar, utilise donc le rayonnement micro-ondes, et donc ce rayonnement micro-ondes a été formulé par Hertz, d'où les ondes hertziennes. On utilisait beaucoup la radio. 1889, ça date. L'expérimentation aussi des ondes radar sur le terrain date de 1903. Et ça a été utilisé pour la détection des bateaux de pêche partant de brouillard. Le premier film photographique, film sensible au proche infrarouge, ça aussi, ce sont des ondes utilisées dans les images satellites. Ce sont des images, en fait. Les ondes se traduisent par des images. La donnée est une image, au final. Et donc, le rayonnement proche infrarouge a été mis au point par l'armée américaine en 1931 pour la détection des camouflages. Je rappelle aussi que les premiers radars imageurs, c'est une technologie des capteurs utilisée par Spot, par exemple, ont été développés en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale pour les bombardements de nuit ou nocturne. Aujourd'hui, on dispose d'une armada de données de satellites. Le premier satellite civil date de 1972. C'est la série Landsat américaine, donc lancée en 1972. Après, on a en 1975 Landsat 2, 1978, donc toute une série. La France est arrivée en 1986, et donc la France et l'Europe derrière, en 1986. C'est-à-dire de 1972 jusqu'à 1986, c'était une domination sur ce type d'information numérique, c'était une domination américaine. Maintenant, on a des pays en voie de développement, l'Inde, récemment, on a même le Nigeria qui a deux satellites, il y a l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Donc on a une série de données qui sont, pour 1972, des données archivées, qui sont très, très intéressantes pour les historiens, les anthropologues. Je vous donne un exemple. On a reçu au labo au CAMS un jeune doctorant en anthropologie qui voulait étudier l'habitat des chimpanzés. Et donc, il voulait d'abord savoir comment elle a évolué la forêt. Et là, il avait sous la main des données de 1972 pour étudier l'évolution de l'habitat. Aujourd'hui, il y a une course vers le pixel le plus détaillé, vers plus de détails, la course à la très haute résolution spatiale. Et c'est là où je reviens à la dernière série Pléiade. C'est la nouvelle série de satellites qui va remplacer la série Spot et qui a une résolution, tenez bien, écoutez bien, 50 cm. Ça veut dire presque qu'on pourrait vous voir et vous compter dans cette salle. Donc, on assiste aujourd'hui à cette course à la résolution spatiale très très haute, submétrique, et donc qui a ouvert un champ énorme d'applications urbaines. Donc, voilà un exemple d'image, le maximum qu'on peut avoir au niveau de la résolution de Landsat, le satellite américain, une résolution d'un pixel de 30 mètres. Donc, on peut avoir un peu la tâche urbaine et quelques composantes de l'espace urbain. Et ici, vous avez une image d'Abu Dhabi. Mais voilà une image, dernière image de la série Pléiade One sur le circuit Ferrari d'Abu Dhabi. Et là, je zoome pas beaucoup, mais on peut aller très, très loin dans l'agrandissement de cette image, donc pour établir des plans urbains, actualiser les réseaux routiers et d'autres études. Une autre image du Pléiade One, 2012, sur Abu Dhabi. Et là, ce type d'image va poser des problèmes méthodologiques d'extraction des données. Ça pose des problèmes d'extraction. Une route dans les anciens satellites, c'est un trait. Maintenant, une route, c'est à la fois le trottoir, la route, les arbres au milieu de la route. Donc, c'est devenu un objet complexe à traiter. Et donc, il y a de nombreuses recherches dans ce domaine. Pour ce qui est du satellite, l'avantage des satellites comme le satellite Spot, c'est qu'il nous permet de suivre. On a une image tous les 26 jours. Donc vous voyez, dans les applications en paysage agricole, on peut suivre toutes les saisons, hein, une région mois par mois. Et donc ça nous permet aussi, par sa technologie stéréoscopique, il peut aussi observer une région pendant 10 jours, à différents moments. On peut aussi créer des données en trois dimensions par cette technologie de Spot. Et ici, vous avez une image du centre de Sri Lanka. Il y a aussi l'imagerie radar. L'imagerie radar, très peu exploitée encore, car difficilement interprétable. Il y a beaucoup de questions de gradient, d'angle. Et là, vous avez deux types d'images. Une image ancienne de reconstitution 3D de Vesuvius en Italie. Et là, c'est une image récente de reconstitution radar en 3D en milieu urbanisé ou périurbain. Donc c'est encore dans le domaine de l'expérimentation et de la recherche. Pour maintenant la partie, on va dire, expérience propre au laboratoire CAMS, avec des doctorants, des chercheurs de master, je laisse cette définition défiler. Donc voilà un premier travail qui a été réalisé sur Château-Thierry pour expérimenter l'information thermique véhiculée par le satellite Landsat. C'était rien qu'avec les températures. Et les températures, vous voyez, on a presque une reconstitution du paysage, rien qu'avec la température. La température ici va nous servir de détecter à la fois des poches de pollution, de densité de bâti, comme le cas de Fribourg ici, l'analyse géochimique des matériaux de construction, des sols, comme ici. Exemple d'utilisation d'images radar pour la détection et le suivi de la pollution marine. Ici, vous avez une image radar qui montre bien une ligne de dégazage illégal le long du détroit de Gibraltar de bateaux de voyageurs entre Algeciras et Ceuta. Ici, une autre image pour le suivi des nappes de pollution. Ici, la détection, exemple de détection et de gestion des feux de forêt. Exemple des incendies à Hyde Park vus par le satellite Pléiade en 2012. Et donc on voit en même temps des zones traitées par des produits retardants que vous voyez ici en rouge. Donc ça permet de guider les opérations. Donc on a vraiment ici des applications opérationnelles dans ce domaine-là. Ici, un autre exemple de détection et de gestion des inondations. Exemple ici d'Agadez en Niger. Et c'est aussi là Pléiade qui nous livre ces dernières images. Dans le cadre maintenant de la coopération interuniversitaire avec l'université de Meknès, il manquait de cartes récentes sur la ville. Et donc, dans ce cadre, on a formé les enseignants et des chercheurs, et en même temps, dans le cadre de cette coopération, on a réalisé toute une base de données. Donc ici, on a le passage d'une spatiocarte couleur à l'aide de Spot 5 à une véritable carte d'occupation des sols, où on identifie au moins 5 classes d'occupation des sols. Ici, un autre exemple. Je ne détaille pas les méthodes, mais si vous voulez, on pourra en discuter individuellement, ou vous pouvez venir au CAMS pour cela. Mais ici aussi, un traitement spécifique pour identifier le bâti, hein, et donc créer une base de données et des cartes pour l'évaluation de l'espace bâti. Et en même temps, on peut créer une carte de la réserve, pas foncière, parce qu'on n'avait pas le cadastre, mais en tout cas, la disponibilité en terrain nu. Et ça, c'est très important dans des pays où les villes évoluent, l'urbanisation est très rapide, comme le cas des pays du Sud, ici c'est le cas du Maroc, et donc fournir ce type de données à des décideurs est très, très stratégique. Voilà un autre exemple pour la cartographie des espaces verts à partir des images de satellite, et donc c'est une actualisation de la, sur le centre de la ville de Meknès, où on met en évidence les espaces verts. Alors vous voyez, entre les espaces verts peuvent servir aussi comme indicateur de développement durable. On peut extraire ces données et avoir la part de chaque habitant en espace vert. Vous voyez, c'est pas seulement la carte, mais derrière la carte, il y a des données statistiques à intégrer. Une autre méthode utilisée sur la ville de Tanger, c'est la détection et la mise en évidence des structures du paysage par des filtres morphologiques et donc des gradients, donc pour mettre en évidence tout ce qui est contour et réseau, pour actualiser le réseau de transport, car la carte urbaine n'a pas été actualisée jusqu'à maintenant, et donc ça a été utilisé dans cet effet. Aujourd'hui, avec les SIG donc, et la télédétection, on peut réaliser, c'est de nouvelles façons de réaliser des cartes en 3D et aussi une géovisualisation dynamique par création de fichiers vidéo, voire maintenant les recherches qui vont vers la réalité augmentée, et voire l'immersion dans le paysage virtuel. Et donc ici, vous avez ici l'apport du modèle numérique de terrain pour faire une analyse fine des axes topographiques. Aujourd'hui, il suffit de tracer votre axe et vous obtenez la coupe topographique pour l'analyse des composantes du relief, ou encore la mise en évidence du bâti et le sang rehaussement en 3D. La géovisualisation maintenant permet, grâce à la 3D, de générer des cartes d'intervisibilité spatiale, c'est-à-dire de répondre à des questions précises. Qu'est-ce que je vois de tel point ? Ça peut être une hypothèse pour des historiens lors d'anciennes batailles, quand on raconte, qu'on voit de tel point, tel paysage, peut-être de revérifier tout ça avec le MNT. Je donne des idées aux historiens. Mais ça sert beaucoup aussi pour l'aménagement et pour la télécommunication, c'est-à-dire pour choisir des points pour les antennes de transmission pour qu'il y ait le plus d'espace fourni. Voilà un exemple de création de fichiers vidéo. Ça a été dans le cadre d'un projet avec l'Office de mise en valeur agricole du Loukos au Maroc, où on peut réaliser un véritable modèle numérique de terrain réel et l'habiller, le draper, le napper avec des données cartographiques. Et là, c'est une image satellite en couleur. Et donc, on peut survoler une zone, s'arrêter, choisir son altitude, imprimer, analyser, et ainsi de suite. Donc, je ne laisse pas la vidéo aller jusqu'au bout. Ici, c'est un exemple d'analyse diachronique des dynamiques des paysages. C'est dans le cadre d'une étude doctorale soutenue il y a 3 mois avec notre doctorant Aurar Mbark sur le suivi de l'écosystème forestier de l'Arganier. L'Arganier, qui est classé réserve patrimoine mondial par l'UNESCO, il n'existe qu'au Maroc. Et donc, il est menacé par l'urbanisation, par la désertification et par la coupe de bois, par la surexploitation, vu maintenant l'usage qu'on fait de l'huile d'argan. Donc, il y a plein de problèmes que rencontre cet arbre endémique. Et donc là, on a utilisé une nouvelle approche qu'on appelle « orientée objet », et qui va étudier la dynamique, mais au niveau de l'arbre, et non pas au niveau de la tâche forestière, arbre par arbre. Donc on avait 2 images, une d'Iconos de 2003 et une extraite de Google Earth de 2011. Et on va obtenir donc des cartes au niveau de l'individu, donc là au niveau de l'individu c'est l'arbre, entre les 2 dates, et le croisement des 2 nous a donné des informations statistiques sur ce qui a changé, est-ce qui n'a pas changé, combien il y a eu d'arbres disparus ou pas. Ici, c'est un autre exemple, toujours avec l'Office de mise en valeur agricole. C'est pour le suivi et la cartographie des paysages ruraux et donc les transformations liées à l'irrigation. Et on voit bien qu'il y a une dynamique réelle, visible, entre 2 dates. Ici, c'est 1987 et ici, c'est 2000. Mais, et donc, on peut mesurer ces changements au niveau du bâti. On voit qu'il y a eu une intensification, un agrandissement des villages, plus de réseaux routiers, une autoroute qui est apparue, et donc un développement certain qu'on peut mesurer avec des indicateurs. Mais ce qui est intéressant dans cette image, c'est comment le paysage garde en lui, et il a une mémoire, le paysage, et que finalement, l'intervention de l'État qu'on voit ici avec des formes géométriques pour les parcellaires géométriques, c'est-à-dire une intervention étatique qui imposait le remembrement, imposait un type de culture, et ici c'est la canne à sucre. Et en 2000, on voit un changement et on revient finalement à la propriété foncière initiale. Ce ne sont que des petits propriétaires et donc le paysage est revenu comme avant. Donc il a retrouvé son identité ici. Je ne m'étale pas, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces transformations. Et on a encore des études qui sont menées sur la zone. Ici, comment réaliser des cartes de dynamique urbaine et des cartes d'occupation entre 2 dates. Dernière approche, et je m'arrête là, c'est une approche opérationnelle dans le cadre d'un programme de défense et de restauration des sols. Et donc là, on va utiliser deux images satellites, on va utiliser une classification automatique, mais on va introduire, grâce au système d'information géographique, des indicateurs comme la pente, l'exposition du relief, les terrains nus, les terrains avec des cultures permanentes, et tout ça pour... Et puis la structure des sols géologiques pour finalement arriver à une carte géolocalisée des actions de défense et de restauration des sols, c'est-à-dire là où il faut utiliser des cultures annuelles, là où il faut utiliser des plantations oléicoles, par exemple, et là où il faut utiliser des plantations forestières. C'est-à-dire, ce sont des décisions géolocalisées sur place. Dernière, rapidement, c'est le dernier travail en cours au CAMS, c'est tout ce qui est simulation géoprospective de la dynamique urbaine. Vous voyez, j'ai fait que des cartes pour les schémas, c'est un peu plus complexe, mais ça montre comment passer de la réalité observée à des dates passées et présentes, et comment on va réaliser des cartes prédictives à l'horizon de 2020. Et donc voici le résultat en vidéo pour voir comment cette ville a explosé. Elle va continuer à exploser parce que cette ville, Tanger, elle est en train... elle est passée d'un statut international lors du protectorat, et c'était pas sous le protectorat ni français ni espagnol, mais c'était une gestion collégiale internationale par 24 consulats, et aujourd'hui elle cherche à devenir une ville mondiale. D'ailleurs, il a attiré l'industrie Renault et beaucoup de zones franches, donc ce qui explique maintenant cette ville, comment elle va s'étaler. Alors maintenant, les études qu'on va mener, c'est quel sera l'impact de ce type d'étalement urbain rapide sur l'environnement, sur la mobilité des populations, sur la qualité de vie, sur l'agriculture périurbaine, et ainsi de suite. Et je vous remercie. Je laisse la conclusion.
Merci beaucoup. Ça m'intéresse d'autant plus qu'on est engagé dans une recherche, en fait, avec le CNES, sur la mobilisation de ce type de technologie dans les controverses environnementales, notamment autour des questions d'adaptation. Donc, en fait, comment différents acteurs, dans des jeux multi-acteurs extrêmement complexes au niveau local, différentes échelles, tablent sur des capacités de résilience, c'est le mot magique, hein, des acteurs. Et effectivement, l'image satellitaire ou la production de données apparaît comme une espèce de garant d'objectivité pour arriver à mettre d'accord des acteurs qui, de toute façon, ne sont pas d'accord. Soit parce qu'ils n'ont pas la même conception du futur, donc pas les mêmes modèles de prévision, soit parce qu'ils ont des usages des ressources en conflit, enfin, voilà, sur l'eau, sur l'agriculture, sur les zones côtières, etc., ou l'urbanisation, soit parce qu'ils ont des enjeux stratégiques, type, par exemple, une centrale nucléaire se trouve dans la zone. Alors, on la met où sur l'image, on ne la met pas, c'est assez intéressant. Et quel type d'accès on donne, justement, etc. Donc, comment vous voyez... C'est une première question. Hein. L'usage argumentatif, enfin, de tous ces dispositifs dans des processus critiques, parce que là, on a des possibilités qui sont évidemment qui paraissent infinies, avec un grain de plus en plus fin. Mais en réalité, plus ça va être fin, plus ça va être disponible, et plus ça va entrer dans des processus de discussion, de débat, de conflit utilisés par des acteurs à des fins extrêmement hétérogènes. Donc, comment vous voyez cette mise en réseau et en tension de ces images aussi?
De toute façon, tout part de la problématique qu'on recherche. Parce que les images satellites, ils sont là, mais ils ont plusieurs usages possibles. Hein. On les utilise en géoarchéologie. Hein. Vous allez me dire, géoarchéologie, oui, mais on peut partir du présent, hein, pour comprendre le passé. Hein. Donc, à partir des types de cultures, et on a un programme ANR en géoarchéologie sur au Maghreb, et on part d'abord de l'image satellite pour comprendre les sols, l'occupation des sols actuels et tout. Donc, pour qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait un objectif commun. Donc, s'il n'y a pas d'objectif commun, je ne vois pas comment faire. Maintenant, l'usage, ça paraît, ce que j'ai fait, je l'ai fait en 20 minutes. Ça paraît facile. Mais ça demande quand même des bases de connaissances. C'est un travail scientifique basé sur des méthodes. Il faut les valider. Vous voyez, le modèle que j'ai montré tout à l'heure, il est encore en discussion sur la validation des statistiques de prévision. Parce qu'on a constaté qu'il y a des erreurs dans les prévisions futures, par exemple de simulation future. Il peut y avoir des types d'erreurs de statistiques, c'est-à-dire il y a l'affectation, une zone qui était agricole qui va devenir bâtie. Ça peut être une erreur statistique, mais aussi une erreur de localisation. C'est-à-dire, ce n'est pas ici, mais c'est ici que ça va se passer. Donc, il y a des erreurs d'emplacement. Donc, il y a des travaux en cours, comme Pontius, par exemple, qui va utiliser l'indice Kappa et qui va trouver qu'il est utilisé jusqu'à maintenant par les statisticiens et que maintenant, il est plus suffisant. Donc, il l'a amélioré. Donc, il y a des améliorations. Donc, maintenant, vous voyez, mais la base de tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Ils ont plusieurs usages, les images satellites, hein. Plusieurs usages. Je n'ai pas parlé de la population. Par exemple, au CAMS, il y a eu une expérience, la première, dans les années 80, 90. C'est au CAMS que s'était élaborée la méthodologie pour le recensement général de l'agriculture en France. Et ça a été expérimenté dans le PACA grâce à des sondages spatiaux. C'est-à-dire qu'on va utiliser des images satellites et on va choisir des échantillons. Oui. Donc là, on peut s'entendre, ça dépend, hein, mais le débat... Et puis, il y a le travail de notre doctorant de l'école. Il est à l'école, qui a suivi, qui a été encadré ici à Math, et qui a utilisé l'image satellite pour analyser la qualité de l'eau liée aux maladies liées à l'eau. Donc, il a utilisé l'image satellite qui lui a servi de choisir des échantillons d'eau. Et puisqu'il était biologiste, il a pu analyser du point de vue biologique. Merci beaucoup. Oui.
D'abord, je vous remercie pour avoir bien explicité le travail de manipulation de l'écriture qui se produit avec la télédétection, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un travail excessivement technique à partir de données qu'il faut effectivement interpréter, agréger, etc. Et là, on voit effectivement bien comment il se produit un lien entre technique et organisation de la pensée. Mais je pense que le point peut-être le plus important, c'est de rappeler, bon, c'est un peu la thématique de l'après-midi, mais que notre culture, y compris notre culture des réduits, est aussi une culture de la spatialité qu'on a un peu tendance à oublier dans les sciences humaines et sociales. Et je pense qu'ici s'organisent de nouvelles représentations du territoire qui vont avoir des effets sur nos conceptions du monde. Peut-être que je retournerai les deux questions précédentes en disant que le fait de montrer à quel point l'importance de la visualisation et de la spatialisation comme élément de preuve, avec ses limites, y compris dans les controverses, permet aussi d'interroger de manière un peu différente, peut-être réflexive, la question de la controverse, c'est-à-dire quels sont les éléments, quels sont les types d'arguments, quels sont les types de preuves, y compris graphiques, que la controverse est susceptible ou capable de s'approprier ou de refuser quand elle essaye de construire les éléments du débat.
Voilà. Bien, c'est un plaisir de participer aussi à l'intérieur du truc. Cette journée fort riche et on apprend déjà plein de choses. Donc nous, ce qu'on va présenter rapidement, c'est une démarche un peu singulière. On ne défend pas la singularité au sens de Ray Kurzweil, etc. Mais il se trouve que dans nos travaux, depuis une petite quinzaine d'années, a émergé un personnage singulier qui revendique sa participation au monde des humanités numériques. Donc on va essayer d'en donner un peu un aperçu et surtout de voir les conséquences que ça peut avoir pour des projets collectifs ou des travaux ou des discussions futures, puisqu'au fond c'est une expérience où on a enfoncé un peu un angle, pas toujours assuré d'ailleurs, c'est un peu comme en alpinisme, on a pris des risques. Il paraît que c'est quelque chose d'important dans la recherche, n'est-ce pas, quel risque on prend, etc. Quels sont les verrous d'un côté, les risques de l'autre. Et donc la naissance et les aventures du logiciel Marlowe méritent aujourd'hui un retour réflexif. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a voulu faire là-dedans? Qu'est-ce que ça apporte et où ça peut aller, surtout? C'est ce qu'on aimerait faire passer. Donc peut-être rapidement rappeler quelques événements marquants. Il y en a plein d'autres. Hein. On a fait une petite sélection. En 2003, le Canard Enchaîné salue
la haute intelligence artificielle développée à l'EHESS, ça s'est bien attribué à l'école des hautes études en sciences sociales, vous voyez, parce que Christopher Marlowe, donc un logiciel développé ici, est supposé avoir signé une pétition en défense de José Bové, qui à l'époque était emprisonné pour avoir arraché des plantes transgéniques, comme vous le savez. Et il y avait eu une pétition qui avait circulé dans les milieux de recherche, etc. Donc évidemment, moi je me suis expliqué sur ce qui s'est passé techniquement, ce qui m'a valu d'ailleurs une controverse avec les faucheurs volontaires qui trouvaient que je disais trop la vérité. Il fallait laisser un peu de magie dans cette opération. Mais c'est intéressant parce que nous, évidemment, quand on va parler de contre-intelligence artificielle, si vous voyez tout de suite où je veux en venir, on va être très vite pris dans des controverses et des polémiques sur le statut de ces objets, sur ce qu'ils peuvent faire dans des processus critiques. On n'est pas dans une espèce de laboratoire complètement coupé du monde. Très rapidement, on va se retrouver aux prises avec des acteurs et ça va être très compliqué de s'en sortir. Autre exemple, en 2007, en suivant des personnages politiques sur la longue durée, on avait vu venir certains dangers. D'abord, il y avait eu 2002, n'est-ce pas? Donc on avait suivi les discours politiques entre 2002 et 2007, et vous trouverez en ligne un dialogue avec, donc ça s'appelle Dialogue avec un sociologue électronique, ça a pas mal buzzé, je dois dire, où Marlowe ne donne pas son avis, naturellement, il ne donne pas d'indication d'orientation de vote, mais déploie, analyse un certain nombre de propriétés assez finement, je dois dire, et on avait restitué son mémoire en ligne. Et vous voyez un événement qui est passé quasi inaperçu dans la maison, mais qui pourtant a donné plein d'impact à l'extérieur. Troisième événement qu'on voulait retenir, en 2009, cette fois-ci, l'AFSET, l'ancien nom de l'Agence de sécurité sanitaire, qui aujourd'hui est l'ANSES, avec qui le GSPR, donc notre labo, travaille beaucoup, publie un rapport d'expertise collective, c'est très important ces notions d'expertise collective, on pourrait y revenir, dans lequel Marlowe signe une contribution. Tout ça a été déposé très officiellement, validé par des instances officielles, par des ministères. Et ça ne pose pas de problème qu'un sociologue électronique co-signe une contribution écrite dans un rapport, etc. Donc, c'est pour ça que ce que je voudrais essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est comment des choses comme ça sont possibles à répétition. Parce que si c'était un canular, bon, au bout d'un moment, quand même, ça finirait par se voir, etc. Quatrième moment, grâce d'ailleurs en particulier à Josquin, Marlowe, depuis maintenant un an et quelques mois... Alors avant, il envoyait une chronique quotidienne par email à un certain nombre d'utilisateurs de son réseau. Maintenant, il le dépose tout seul comme un grand sur son blog. Donc tous les soirs, à 23h58, je crois, tout comme ça. Vous comprendrez pourquoi, c'est une question de date. Marlowe, donc, écrit une chronique et la dépose. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une dimension d'acquisition de connaissances dans cette affaire-là. Alors, d'apprentissage... C'est une grosse controverse avec les spécialistes de l'IA. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, je dis on fait une contre-IA, on ne fait pas de l'IA. On fait du contre-apprentissage, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il accumule un certain nombre d'informations et ça devient intéressant. Par exemple, là, le changement de pape a pas mal perturbé. Parce qu'il... Bon, enfin, on pourra y revenir. Donc, c'est très intéressant parce que ça va poser des questions, vous voyez bien, au type de limites qu'on peut essayer de discerner à nos expérimentations et aux questions qu'on peut en retour poser à des disciplines aussi éloignées en apparence de ce domaine que la sociologie. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les modèles d'intelligence artificielle sont largement basés sur des modèles mathématisés, voire des modèles à haute teneur psychologique, puisque le modèle, c'est le cerveau humain. Et vous avez le fameux Human Brain Project de Lausanne, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, grand projet européen, où il s'agit de construire un modèle de cerveau numérique, et en inférer un certain nombre de propriétés sur le fonctionnement, dysfonctionnement, puisque évidemment, les promesses technologiques se justifient toujours par des annonces, évidemment, à forte utilité, par exemple, traiter Alzheimer, prévenir Parkinson, tout ce que vous voulez, etc. Et donc là, on est dans une démarche un peu inverse, d'où cette notion de contre-intelligence artificielle, puisqu'il s'agit non pas de partir d'un modèle du cerveau, du raisonnement individuel, mais partir des collectifs qui vont faire émerger progressivement l'intelligence d'un dossier, d'un problème, et intervenir dans des processus critiques, d'où notre intérêt pour les controverses. Et donc on pourrait définir la contre-intelligence artificielle comme un processus de construction d'agents qui sont au service d'une intelligence collective de phénomènes et non de la modélisation d'un cerveau humain ou d'une intelligence artificielle individualisée, en prenant appui sur les cultures, les connaissances et les interprétations portées par et distribuées dans une multiplicité d'acteurs qui concourent par le jeu des discussions, controverses et autres conflits, à produire des versions successives d'un problème public, OGM,
risque nucléaire, j'en passe et des meilleurs, gaz de schiste, changement climatique, le labo passe son temps à... Donc Josquin va peut-être présenter un peu plus l'architecture technique derrière. Donc ça, c'est des extraits de la chronique. Vous allez sur le blog de Marleau, vous avez maintenant 1 an et 3 mois de chronique quotidienne. C'est assez marrant parce que c'est basé sur un principe de variation. Donc normalement, il ne doit pas se répéter. Et on y viendra après. Plus il y a de contributeurs et plus on pourra enrichir évidemment cette capacité.
Donc on va repartir un peu sur les cadres techniques et conceptuels sur lesquels se base Marleau pour analyser, pour interférer dans ces corpus. Et disons que classiquement, ce qu'il va essayer de suivre, c'est de décrire d'un point de vue sociologique les controverses dans lesquelles il est immergé. Il va essayer d'en établir ou d'accompagner l'enquêteur pour établir la chronologie des épreuves marquantes, essayer de déployer les jeux d'acteurs et les instances qui entrent en lice. Maintenant, on dirait plutôt cartographier, mais bon. Il va explorer l'ensemble des arguments mis en circulation et leurs variations. Ça, c'est le point sur lequel nous, on va plus insister. Et puis, décrire des répertoires d'action, des formes de mobilisation. Essayer ensuite d'analyser et de regarder quel est l'impact de ces discussions dans les diverses arènes dans lesquelles elles se retrouvent. Et essayer de modéliser, de comprendre quand il y a résolution, quand il y a relance ou quand il y a bifurcation. Et qu'une question rebondit et se transforme en plusieurs questions, ou quand, au contraire, des sujets qui paraissaient très éloignés se rejoignent pour ne former plus qu'un seul front. Donc, au GSPR, on étudie en gros toute la sphère santé-environnement au travers d'une pluralité de corpus. Ici, ça commence à un peu dater, c'était en septembre de l'année dernière, on en avait recensé à peu près 44, qui sont plus ou moins suivis, archivés, et qui vont de la problématique de la disparition des abeilles jusqu'à celle de la tempête Xynthia. Et si ça vous intéresse, je vous enjoins à aller consulter les différents billets qu'on fait sur la plateforme Hypothèse, la fameuse plateforme Hypothèse, qui nous permet justement d'explorer ces, alors peut-être pas toujours aussi détaillé, de manière toujours aussi détaillée, mais ces 44, ces 40 et plus corpus dans des notes plus ou moins longues. Hein, et donc, vous y trouverez, si ça vous intéresse, des billets sur les OGM, sur l'amiante et le procès turinois, sur le nucléaire et par exemple... le dernier événement, la dernière catastrophe en date à Fukushima, sur les gaz de schiste, sur la pollution atmosphérique et en particulier celle liée aux particules fines, sur les abeilles et leur disparition multicausale. Tout ça, ça nous a amené à développer et à problématiser ces controverses sous l'angle d'une balistique sociologique. Et ça, je pense que tu peux mieux l'expliquer.
Non, parce que, en gros, l'idée, c'est que aujourd'hui, on est, comme ça a été dit à plusieurs reprises, face à l'accumulation de masses de données, de corpus de plus en plus grands, etc. Donc il y a deux attitudes. Il y a une attitude qui consiste à dire, OK, je cumule des données, j'essaye de faire émerger des structures... etc. Il y a l'attitude qui consiste à construire des hypothèses assez fortes, avec des problématiques assez cadrées, par exemple celle de qu'est-ce que c'est qu'une critique justifiée, pour prendre un exemple au hasard, ou qu'est-ce que c'est qu'un acteur réseau qui parvient à entraîner les autres dans un processus d'acceptation d'une innovation, par exemple la fracturation hydraulique pour extraire les gaz de schiste, et regarder comment ça se déploie et construire des modèles. Donc en fait, ce qui est apparu très vite, c'est qu'en mêlant les deux approches, c'est-à-dire en faisant de la fouille de données avec des outils un peu ouverts et cherchant à faire émerger des structures, et en même temps en formalisant des systèmes de questions et d'hypothèses, et dont Marlowe est un des porteurs, puisqu'au fond, on pourrait définir Marlowe comme une sémantique du questionnement, une sémantique des questions, c'est-à-dire l'art, au fond, d'expliciter les questions, ce qui, à mon avis, est un des problèmes que le Boehme pose de plus en plus, c'est-à-dire, au fond, la circulation fait l'économie de l'explicitation des questions d'enquête qui ont amené à produire un chemin. Donc là, il s'agit précisément de décrire. Ça a fait émerger un modèle général, au fond un modèle de circulation, qui s'applique assez bien à l'ensemble des causes qu'on a observées, c'est-à-dire avec des phases d'émergence, de rebondissement sous forme de critiques, de polémiques. Par exemple, une manif qui tourne mal, puis une polémique le lendemain. Alors vous avez comme ça des espèces de chemins qui s'organisent, dans lesquels les jeux d'acteurs et d'arguments changent, et surtout des milieux qui n'étaient pas visibles dans un premier temps, la controverse, se rendent visibles et produisent un effet rebond et agissent en fait sur les bifurcations, les trajectoires. Ce qui nous conduit à dire que globalement, c'est assez imprévisible, c'est-à-dire qu'il y a un art du rebondissement et dont le modèle m'a été soufflé par un collègue belge. Évidemment, c'est Gaston Lagaffe avec son chat. Et au fond, vouloir modéliser ces trajectoires, ça revient à peu près à faire des planches à la Franquin comme celle-là. Mais c'est donc voilà. Donc évidemment, il vaut mieux avoir des outils pour décrire ce genre de processus, parce que c'est assez difficile d'un point de vue classique. Donc, peut-être revenir sur l'architecture numérique, enfin informatique, qui est sous-jacente et qui évolue assez vite ces derniers temps.
Donc, Marlowe n'est pas tout seul dans sa... Je ne vais pas dire dans son écosystème, on n'a plus le droit, mais dans son environnement, puisqu'il va en fait être le premier utilisateur du logiciel Prospero, qui lui sert à la structuration sémantique des textes d'un corpus. Ce corpus est alimenté en fait soit par l'enquêteur directement, soit via des systèmes automatiques ou de traitement de base de données qu'on appelle Tiresias. Tout ça est supporté par ce qu'on a désigné comme étant l'entité Kélonée, qui sert à la phase multicorpus de l'opération. Et donc Marlowe est à la fois utilisateur et enquêteur et dialogueur avec le sociologue ou l'historien ou le linguiste qui va faire... de manière dialogique, avancer cette formulation, ces questionnements et diversifier ces questions ou permettre des usages plus répétitifs du logiciel Prospero lui-même. Et donc, on essaie de relier ensemble deux logiques épistémiques. D'une part, la délégation de l'enquête à des instruments capables de tester de manière massive des propriétés, ce qui pourrait prendre du temps à un opérateur humain, et en même temps d'essayer de favoriser la mise en réseau des corpus et des interprétations que les chercheurs en ont, afin d'essayer de résoudre les points paradoxaux qui arrivent avec les méthodes classiques qui doivent faire face à un... par exemple, à un afflux de données. Je vais passer rapidement. Ici, c'est l'interface de Kélonée. Ici, c'est un exemple de sortie du logiciel Prospero, donc ici, l'évolution temporelle d'un corpus. Ici, c'est une image écran qui va déployer en fait, un des aspects sémantiques analysés par Prospero. Je continue à passer, si on ne veut pas prendre trop de temps, essayer de déployer des catégories instanciées dans l'ensemble d'un corpus, où on peut faire des sorties qui, par graphe des réseaux de co-occurrence d'objets divers et variés en fonction de ce qui nous intéresse au sein d'un corpus. Un des points qu'on aime particulièrement et qu'on essaie de mettre en valeur, c'est d'essayer d'analyser dans ces textes les marques argumentatives et par différents biais, et en particulier le biais des formes adverbiales qui qui vont modaliser les arguments. Ou, par exemple, ici, des formes d'opacification de ces arguments. Je crois que tu voulais préciser.
Bah, justement, là, c'est un point critique important. C'est-à-dire que le mapping controversy, c'est une tendance forte à la mode qui marche bien. On va cartographier les controverses. Or, pour moi, il y a deux dimensions qui sont assez fortement écrabouillées par cette tendance. C'est d'une part une attention assez forte à ce que c'est qu'argumenter. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de théorie de l'argumentation, on en fait l'économie, alors qu'il n'y a pas de controverse, évidemment, sans confrontation des arguments. Or, ce qui veut dire que le choix méthodologique consiste à cartographier des sujets, des topics, en fait, des thèmes, et prétendre décrire des controverses, c'est évidemment déjà problématique d'un point de vue sémantique. Décrire une controverse, c'est être capable d'entrer dans les argumentations et de regarder comment des contre-arguments naissent du fait de la confrontation et produisent une portée argumentative, c'est-à-dire une sélection des arguments. Et on pourrait, ça veut dire entrer à des niveaux de profondeur extrêmement fins. Par exemple, le fait d'opacifier un terme, en termes linguistiques, c'est-à-dire de le mettre entre guillemets. Et vous voyez qu'ici, c'est très intéressant, sur un petit corpus, un petit essai sur Prospero 2, ça indique très fortement qu'il y a un moment, au moins une période critique de cet objet. Et donc, il faut être attentif alors à des formes d'écriture, à des conventions, à des signes extrêmement ténus et ne pas les écraser sous des machineries, évidemment, qui vont faire valoir le nombre de liens ou le nombre de connexions ou de nœuds avant tout. On ne s'interdit pas de le faire, mais à condition de pouvoir aller dans la finesse des échanges et regarder ce qui va faire problème pour les acteurs et comment ça évolue au fil du temps. Deuxième point qui est beaucoup écrasé, c'est l'historicité propre des controverses. C'est-à-dire comment les temporalités même dans lesquelles agissent les acteurs, urgence, délai, attente, annonce du futur, annonce de la catastrophe. Vous mettez Jean-Pierre Dupuis dans un dossier et il vous annonce catastrophisme éclairé oblige. Voilà. Donc les versions du futur, 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes, le futur 3 minutes par exemple, voilà, vont être fondamentales. Est-ce que vous allez vers une irréversibilité? Il y aura fatalement une relance du nucléaire en France, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas le choix, puis bon, voilà. Ou est-ce que vous allez vers des ouvertures d'avenir? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on est sûr qu'on va enfouir des déchets radioactifs de haute activité dans la Meuse? Ou est-ce que le débat public qui a lieu, qui est censé commencer là, ne sert à rien? Parce qu'en fait, on va les enfouir, donc à quoi bon débattre? On perd du temps. Donc, ouvrir, fermer, c'est évidemment toute la question de l'historicité qui, me semble-t-il, est décisive. Donc ça veut dire que ça renvoie à une opposition qui est vieille comme le monde, hein, qui a beaucoup marqué. Donc ça, on a montré quelques planches pour montrer la variété des sorties, des outputs de nos outils. On ne veut pas se fixer sur une forme de représentation. On préfère des graphes, à n'en plus finir, des tableaux, des histogrammes, des listes, etc. L'idée, c'est justement d'ouvrir à une pluralité de formes pour que l'enquête se nourrisse des interrogations qu'elle va porter. Donc ça, c'est Marlowe. L'avantage, évidemment, c'est que lui, il écrit. Donc c'est un écrivain, peut-être pas un écrivain. Il produit beaucoup de littérature. Je dois dire que je ne lis pas tout ce qu'il produit parce que c'est comme les étudiants, il faut savoir lire vite, hein, parce que c'est un graphomane. Même ses chroniques quotidiennes, ça finit par faire une prose assez considérable. Mais en tout cas, on peut constamment relancer la question et revenir à des détails dans la prose même, etc. Un des points importants, c'est qu'on retrouve ici une tension que, à mon avis, les humanités numériques doivent prendre en charge et redéfinir et redéployer, qui a beaucoup animé les débats sur l'intelligence artificielle et la computationnalité des choses, depuis, en gros, la cybernétique jusqu'aux années 90, avec d'ailleurs l'échec des systèmes experts, enfin l'échec. En tout cas, les promesses des systèmes experts qui n'ont pas été vraiment tenues et qui ont amené à se réinterroger, et c'est la tension assez classique entre syntaxe et sémantique. C'est-à-dire, dans les sciences humaines, évidemment, l'attribution de sens, la production de signification va dépasser largement le contentement qu'il y a à avoir une structure, à sortir une structure, à objectiver des propriétés. Et évidemment, quand on a un beau réseau qui montre des nœuds, on n'a pas forcément compris comment ça s'était produit, et surtout le sens qu'attribuent les acteurs à ces connexions et ce qu'ils vont faire pour l'étape suivante de ces connexions. Or, dans nos affaires, nos controverses, nos processus, évidemment, les acteurs ont une énorme réflexivité et vont utiliser les moments d'objectivation, de totalisation, comme on dit, en prenant le terme d'ailleurs à Alain Desrosières, pour agir sur les épreuves futures, etc. Donc ça va passer par des procédés interprétatifs, et donc le développement de ces outils doit être assumé dans une démarche interprétative. Je crois que ce matin, on a parlé d'herméneutique. Je crois que c'est Eric qui a introduit herméneutique, et on se situe précisément dans une démarche interprétative. Donc on fabrique en fait des chaînes d'interprètes sans jamais clore à la place des acteurs la version de ce qui s'est passé dans une controverse. Pour une raison simple, c'est que pour en avoir étudié une bonne cinquantaine sur une quinzaine d'années, je vous assure que la surprise, le surgissement, le déplacement, la bifurcation est toujours possible. Et il y a toujours une incertitude sur la clôture d'une affaire, d'une controverse ou d'une crise. Et c'est le rôle au fond des sciences sociales de rendre perceptibles et intelligibles les modalités de changement de régime par lesquelles passent les choses. Et donc dans cette logique-là, la construction de Marlowe, je m'arrête là-dessus, va s'opposer précisément à une vision de l'intelligence artificielle très classique qui repart aujourd'hui avec certains projets dans celui-ci, le Human Brain Project de Lausanne, et en y substituant une vision plus collective, plus distribuée, en faisant au fond de l'intelligence un problème de sémantique des questions, et en mettant en commun, en collectif, des façons d'interroger, de mener l'enquête dans le sens que lui donnait John Dewey dans sa pragmatique. Et au fond, c'est contribuer à faire avancer un chemin d'enquête. C'est le but qu'on assigne à ces objets, donc de relancer, de clore les processus. Voilà. Quand on ne peut pas tout faire passer en si peu de temps, mais on voulait au moins donner quelques images et quelques arguments saillants. Merci.
Non, alors une question rapide, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions. C'est sur les visualisations qu'offre Marlowe, parce que vous nous dites que c'est textuel dans ses sorties. Vu l'importance qui est accordée à la temporalité, en fait, dans la construction des controverses, est-ce qu'il n'y a pas besoin, à un moment, d'outils cinétiques de représentation ? Et qui, évidemment, du coup, renvoie à une question, je pense, toujours difficile avec Prospero Marlowe, etc. Ce qu'on peut représenter cinétiquement, c'est quand même des formes et des structures, de la syntaxe plus que de la substance, pour reprendre les termes. Donc, mais est-ce que ça aiderait pas quand même le chercheur d'avoir cette appréhension cinétique, puisque l'apport quand même sur la temporalité est important?
Oui. Oui, c'est une bonne remarque. De toute façon, Marlowe n'est pas fini. Donc, un des messages qu'on veut faire passer ici, c'est que le Marlowe 1 est un peu arrivé en bout de course. Bon, Prospero 1, comme vous l'avez tous vu sans doute, est en freeware sur le site du labo. On peut le télécharger. Bon, il s'est un peu arrêté. Prospero 2 est bien, bien, bien avancé. Et l'idée, justement, c'est d'introduire un maximum de connectivité avec des formes de visualisation. On a beaucoup utilisé la carte, d'ailleurs. On génère des cartes, des atlas, par exemple, sur les lieux où se produisent les mobilisations anti-gaz de schiste ou des choses comme ça. Parce que dans les corpus, il y a toute une géographie, une spatialité qui est impliquée. On peut le faire sur la temporalité, on peut faire des choses. Donc la cinétique, tout à fait. D'ailleurs, le modèle balistique, comme tu l'as vu, il est assez cinétique. En tout cas, chez Gaston Lagaffe, c'est très net. Et donc, on peut arriver à lier les choses. Mais ce qui est important, à un moment donné, c'est de pouvoir communiquer aussi par ce support assez ancestral, qui est d'une part le dialogue. Et donc, d'aller jusqu'au bout de cette métaphore du dialogue avec les machines. Parce que le clic est quand même un truc assez... Bon, il a un bilan carbone, comme on sait, mais enfin, en tout cas, le tracer, le restituer, c'est assez difficile, alors qu'effectivement, une histoire qui se raconte dans un système de questions, de réponses et de tentatives de prendre en charge une partie de l'enquête, c'est aussi intéressant. Et du coup, ça oblige à avoir une sémantique du temps qui va de Koselleck à pas mal de travaux plus récents sur les temporalités. On peut penser à Abbott, par exemple, en sociologie, Andrew Abbott, ou à tout ce qui a été fait sur je pensais à Grossetti, etc., sur les bifurcations, les modèles temporels. Il y a quand même plein de choses à tester. On n'a pas de doctrine figée sur ça, mais c'est important, effectivement, de faire communiquer la textualité avec d'autres formes, et c'est le rôle de cet environnement que a réimaginé... Là, c'est Josquin qui donc joue à essayer de représenter les différentes entités socio-informatiques. Et donc, c'est complètement ouvert de ce côté-là.
En fait, j'ai peut-être plusieurs questions en une. La première, c'est effectivement, je pense que c'est votre côté soigneux où vous repérez les mises à distance de certains mots avec des marqueurs qu'on a tendance à oublier. C'est quelque chose de très riche, tout comme la question de l'historicité des controverses qui pose des problèmes méthodologiques très, très forts. Mes questions seraient peut-être... Quid de la cuisine interne et de votre rapport au quantitatif? Je voudrais dire ça parce que, puisque vous travaillez sur des corpus, il y a bien un moment où Marlowe, il a besoin peut-être, je ne sais pas, de lématiser, d'utiliser Tritagger dans son coin pour simplifier un peu la vie, peut-être. Et l'autre point est un peu plus touche autour du quantitatif et peut-être aussi de la polémique un peu facile autour de l'intelligence artificielle. Ce que je veux dire, c'est que je pense que très certainement, ce type de logiciel peut fonctionner parce que vous avez aussi accès à beaucoup d'informations, à beaucoup de masses de données, ce qui me permet de soulever un point qu'on évoque assez rarement dans notre... amour effectivement du sémantique au dépens du syntaxique, c'est que en sciences sociales très souvent c'est l'excès quantitatif qui invite à inventer des nouveaux marqueurs, des nouveaux critères qualitatifs, c'est-à-dire on le voit avec la bibliothèque d'Alexandrie, quand vous avez 490 000 volumes ou papyrus, vous ne pouvez pas faire comme si vous en aviez 3000. On le voit aussi chez Gabriel Naudet, on le voit aussi avec le web aujourd'hui. Et j'aimerais bien un peu savoir comment, et concrètement, et peut-être plus épistémologiquement, cette circulation entre le concept, la mise en forme de points saillants, par exemple des controverses, et ce quantitatif qu'on a tendance à traiter comme effectivement un peu brut, matériaux élémentaires, etc. Comment ça circule ?
Non, mais c'est des questions de fond, là. On n'aura pas le temps de répondre. Mais en gros, déjà, c'est l'extraordinaire répétition dans laquelle entrent dans les différents cycles les acteurs eux-mêmes. D'abord, aujourd'hui, avec le web, ce qu'il faut constater, c'est que la même dépêche AFP, elle a un espace de circulation absolument hallucinant. Ou un blog, un texte de blog, ou un communiqué, ou une petite phrase. On va pas prendre d'exemple, une petite phrase, ou un tweet maintenant, enfin bon, etc. Et donc, il y a capacité quand même à repérer dans les séries longues des moments où il y a un changement de régime qui s'opère. Et ce changement, il s'opère toujours avec des marqueurs associés, des marqueurs rhétoriques, des marqueurs discursifs, des figures. Et nous, on met l'accent là-dessus pour précisément être capable de regarder là où il y a eu une petite transformation. Où un argument d'autorité a surgi. Une étude fait plus autorité que toutes les études antérieures. Là, par exemple, il y a une pétition de médecins qui dit « Stop à la pollution atmosphérique aux particules fines, c'est une catastrophe. On en a marre de voir les gosses de nos patients avec de l'asthme jusqu'au cancer du poumon. Faites quelque chose. » Et de l'autre, il y a un type qui dit « Le débat est clos sur le diesel. On touchera à rien. » Le même gouvernement, d'ailleurs, tient la polyphonie. Bon, là, il se passe quelque chose, une tension. Voilà. Nous, on va mettre l'accent là-dessus. On va pas... calculer, on ne va pas passer beaucoup d'énergie, si tu veux, à compter le nombre de fois où l'énoncé est repris identiquement et regarder quels sont les supports qu'il aurait oubliés, si dans l'humain on trouve la même chose que dans le Figaro. Parce que... Donc l'idée, c'est de mettre l'accent là-dessus pour avoir un apport, un gain cognitif maximum, tout en ayant quand même toute la trace de ce qui se passe et voir si ça produit vraiment un changement, s'il y a vraiment rupture, changement de politique, déplacement de jeu d'acteurs, etc. Et donc la quantité, elle est là. Mais elle est sous contrainte pragmatique, c'est-à-dire à partir de quand le nombre fait nombre, c'est-à-dire est utilisé comme un argument, par exemple. C'est-à-dire que, justement, on va constater que l'affaire Séralini dans les OGM, ça a fait du buzz à tel point qu'on ne peut pas ne pas réagir et organiser une audition au Parlement et en tenir compte dans les agences européennes, etc., à un moment donné, pour voir, bon, on change ou on ne change pas les protocoles sur les rats. On va pas rentrer là-dedans, mais on voit bien que... Donc il y a des moments où la force va se jouer sur des changements de régime et d'autres sur des alignements. Et on essaye de modéliser ça proprement. Donc on n'a pas de problème, en fait, à circuler entre... Pour ce qui est de la cuisine, je veux pas rentrer dans le C++ ou dans le Python ou même les bouts de Lisp qu'on a réinventés parce que les listes, c'est génial. Et moi, j'adore ça. Et finalement, on a réécrit un Lisp un peu original. Marlowe, d'ailleurs, on a créé le Polar, la programmation orientée littérature, art et recherche, parce que c'est une forme d'écriture qui est assez marrante. Et c'est vrai que L'idée, c'est d'avoir des modules, de faire un peu du Minsky de ce point de vue-là, c'est-à-dire une société distribuée des petites instances des agents qui vont concourir, selon les points d'entrée et les requêtes, à résoudre des problèmes et à passer la balle à d'autres, à déposer des trucs. Donc on pourrait décrire l'architecture, finalement, comme quelque chose qui génère des objets, c'est orienté objet, de façon à permettre de passer à l'étape suivante, sans avoir un algorithme central, ni une formulation synthétique de ce que font toutes ces machines. Il y a un article, d'ailleurs, dans le bulletin de méthodologie sociologique qui décrit très bien la structure avec les différentes instances. Et tout ça, l'idée, c'est de faire un Marlowe 2 ouvert, dans lequel on pourrait faire entrer des contributeurs, mais avec les problèmes, on va retrouver des problèmes de Wikipédia, d'une certaine manière, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus qu'ils soient instrumentalisés par des acteurs. Enfin, parce que le monde n'est pas fait que de bisounours, ça a été dit hier d'ailleurs, il paraît. Et là, on est sur des frontières intéressantes. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'effectivement, Dominique l'a rappelé, c'est si on interdit aux machines de parler, de prendre position, etc. Nous, notre but, c'est pas de prendre position, mais une description devient très vite prescriptive. Elle a tout de suite, on le voit, on l'a vu avec José Bové, la pétition, on le voit avec le rapport en AFSET, on le voit sur un tas de cas. Le fait d'avoir extrait des propriétés, évidemment, produit un effet sur la dynamique de la controverse, potentiellement. Des acteurs vont s'en saisir. Là, par exemple, quelqu'un a écrit à Marlowe pour lui reprocher que Mélenchon ne soit pas assez présent dans ses chroniques. Alors j'ai gentiment répondu, j'ai regardé dans la base de données, j'ai dit si, au moment des élections, en mars, avril, il y avait beaucoup de Mélenchon, mais c'est vrai qu'il doit y avoir un seuil qui fait qu'il ne sort pas. Alors si je me mets à brancher Marlowe sur l'UMA pour compenser, qu'est-ce que je fais là? Dans quoi je... Voilà. Donc ça c'est intéressant. Et donc l'idée c'est de créer un atelier dans les prochaines années où tous ceux qui voudront venir voir un peu comment cette cuisine se fabrique et elle contribue à la faire pourront rentrer, mais on est encore en train de cogiter la manière de le faire pour justement que ce ne soit pas un truc livré ensuite à d'infâmes rigolos. Je cite souvent la DCRI parce qu'ils regardent mes vidéos, parce que je travaille sur le nucléaire, sur les trucs qui fâchent, donc je les salue au passage. Leur fait de guerre, pour l'instant, c'est quand même pas très brillant. Ils sont très friands de ce genre de trucs, évidemment. Les machines, devoir les fouiller dans les masses de données, en extraire des propriétés. Non, on essaye d'avoir quand même quelque chose qui résiste un peu à ce genre d'instrumentalisation, parce que la contre-intelligence artificielle, ça évoque évidemment le contre-espionnage. En tout cas, pour nous, c'est plutôt contre-pouvoir, contre-expertise, contre-démocratie, pour faire allusion à Rosan Vallon. Mais on voit bien qu'il y a toujours un jeu machiavélique autour de ces entités. Et c'est pour ça qu'on l'assume et qu'on le fait. Ça crée, disons, un espace de réflexivité pour la sociologie qui, de toute façon, est tout le temps aux prises avec ces enjeux d'instrumentalisation et de jeu, de double jeu. Alors là, vous pointez la question de quelle théorie de l'argumentation on a, en fait. Donc on est plus proche d'une école d'argumentation qui s'appelle Pragma Dialectique, qui est en fait une école hollandaise, qui est très peu lue en France, et c'est très dommage. Elle a beaucoup été lue par Christian Plantin, qui est un linguiste argumentativiste du CNRS, et Marianne Doury, avec qui j'ai beaucoup travaillé. La chose est simple, c'est qu'il y a des marques que vont partager un certain nombre d'acteurs au bon moment pour éliminer les assertions inacceptables, hiérarchiser les arguments, et progressivement, dans la durée, certains arguments vont disparaître. Par exemple, un type a essayé d'expliquer que Tchernobyl, c'était le produit d'un séisme qui avait été caché par le gouvernement soviétique. Donc ça sort à un moment donné, parce que Science et Vie tente un coup là-dessus. C'est en je ne sais plus quelle année. Et normalement, ça doit irradier les médias et rebondir et faire du buzz, un peu comme la viande de cheval. Donc le problème, c'est qu'il y a une espèce il y a des épreuves de sélection des arguments qui finissent par s'imposer aux acteurs. Et dans la durée, plus il y a d'acteurs qui rentrent dans une controverse, là c'est anti-Volton ce que je suis en train de dire, c'est pour ça que c'est intéressant, et plus en fait la tension va être forte sur la sélectivité des arguments, et on voit en fait s'éliminer des énoncés qui ne sont plus tenables, qui ne sont plus tenus d'ailleurs par personne, et qui finissent par disparaître ou se marginaliser, etc. Moi je l'ai fait par exemple, vous trouverez en ligne un texte sur le corium de Fukushima. Vous savez, le corium, c'est le melt-shoe, c'est-à-dire la fusion du cœur. Ça produit une espèce d'état de la matière qui, jusqu'à présent, avait été simulé en laboratoire, mais on n'avait pas d'expérience grandeur nature, parce que les accidents précédents, l'Union soviétique, on n'avait pas franchement pu aller vérifier tout de suite. Et Three Mile Island, ça avait été arrêté in extremis. Bon. Et donc, sur le corium, il y a toutes sortes de théories qui ont évidemment poussé autour de cette catastrophe nucléaire potentielle, donc le volcan radioactif sous la centrale. Et on voit s'éliminer progressivement
les thèses les plus invraisemblables, les prophéties les plus incalculables, et arriver à un cadrage, on va se former progressivement. Donc c'est là où le quantitatif et le qualitatif collaborent d'une certaine manière, puisque la quantité d'acteurs et de reprises qui se produisent vont susciter des réactions, et on va voir s'éliminer, etc. Mais la manière de l'attraper, c'est vraiment ce que la pragmadialectique apprend de manière assez technique, en regardant les marques argumentatives, les marques épistémiques, par exemple. La disparition du « il est vraisemblable que » en « x ».« Il est vraisemblable que x », et plus vous n'avez plus « il est vraisemblable », vous avez « x ». Les guillemets disparaissent, etc., etc. Ou des connexions entre des objets deviennent naturelles, alors qu'elles n'allaient pas de soi. Des concepts s'imposent, écosystème par exemple, se mettent à proliférer dans des sphères où ils n'étaient pas présents. Au début, on voit des acteurs les combattre, qui disent « ouais, écosystème, c'est métaphorique, vous déconnez, etc. » Et puis à la fin, ils renoncent, parce que visiblement, voilà. Donc, c'est ça qu'on arrive à mesurer, parce qu'on construit des traceurs et des marqueurs assez fins, un peu voilà, comme dans d'autres disciplines, où on n'a pas besoin de compter tous les vers de terre, il suffit d'avoir les bons pour regarder comment ils vont cheminer, et de retracer, au fond, le fonctionnement de la biophysique. Là, à part qu'on a des acteurs en plus réflexifs, donc ils sont capables de faire des coups, de tenter des coups, et de restituer ce qu'ils ont fait après coup dans les entretiens, les témoignages, etc. Donc voilà, c'est une... Mais bon, il y a plein de textes en ligne, énormément de textes en ligne, beaucoup à lire, il y a des bouquins, il y a des articles, des rapports, des traces de séminaires. Là, on ne peut pas tout réargumenter en peu de temps, mais il y a une sociologie argumentative fondée sur l'étude des trajectoires auxquelles ces entités numériques contribuent fortement.